France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. En 1981, l'artiste africain-américain Romary Bearden composait une série de 19 collages dont la forme même, colorée, fragmentée, collective et indisciplinée, disait l'idéal d'un cosmopolitisme panafricain. Il le disait, ou plutôt il l'improvisait sur un air de jazz. Et c'est vrai que lorsqu'on pense aujourd'hui à la présence des artistes noirs dans le Paris de l'après-guerre, on voit d'abord cela, des musiciens de jazz. Qu'est-ce que cela dit? Et qu'est-ce que cela cache? Puisque, on le sait bien, dès qu'on ouvre les yeux sur une présence, c'est autre chose que l'on rend invisible. Cette œuvre est exposée aujourd'hui dans la première salle d'une belle et grande exposition Paris Noir que l'on peut voir au Centre Pompidou jusqu'au 30 juin. Et c'est par elle que nous allons y voir. En compagnie des historiennes de l'art Eva Barois de Kevel et Elvan Zabunian, bientôt rejointes par notre sociétaire du jour, Julia Pouma, bienvenue à Harlem-sur-Seine, du temps où Paris était l'une des capitales des luttes anticoloniales et de l'idéal politique mais aussi artistique du panafricanisme. Il est un cœur ténébreux à cette exposition, comme à toute réflexion sur la condition noire aujourd'hui. C'est la mémoire de l'esclavage et de l'Atlantique noir, le passage du milieu, que Romary Bearden avait aussi donné à voir dans son Black Odyssey. Et comment alors oublier la voix d'Édouard Glissant, poète du tout monde, qui appelait à restaurer les imaginaires, à réunir toutes les histoires pour lutter contre l'horreur.
Soit avec la littérature, soit avec la peinture, on peut remplir l'étendue du monde aujourd'hui. Il n'y a plus d'espace vierge. Et toute la sensibilité, toute l'imagination, tout ça, ça rentre dans le monde et ça le remplit et ça le remplit et ça le remplit. C'est ça le tout monde. Mais il y a aussi une jubilation du monde. Les histoires, on se raconte des histoires, les histoires des peuples qui sont toutes différentes. Et aujourd'hui, il faut réunir toutes ces histoires-là. Il faut les connaître toutes. Il faut lutter contre l'horreur. Et c'est ça, tout le monde. Plus il y a de langues du monde que nous allons préserver, même si elles sont parlées par 10 personnes ou 20 personnes, plus il y a de langues du monde que nous préservons, plus nous préservons l'imaginaire des humanités.
Édouard Glissant, au journal d'Antenne 2 en 1993, Eva Barois de Kevel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice au service de la création contemporaine et prospective du Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, et commissaire associée de cette grande exposition qui s'y tient jusqu'au 30 juin, Paris Noir, dont on peut citer le sous-titre, c'est important, Circulation artistique et lutte anticoloniale 1950-2000. Ça doit être une émotion quand même de voir ouvrir cette grande et belle exposition aujourd'hui et Glissant et y est très présent, au fond, central. Peut-être même.
C'est une grande émotion et Glissant est tout à fait central. Il est au cœur de cette matrice que nous avons imaginée au cœur de l'exposition.
C'est ça, c'est le centre de l'exposition.
Voilà, qui déploie le parcours et que les visiteurs et visitrices traversent à trois reprises au cours de leur visite.
Bonjour, Elva Zalbignon.
Bonjour, Patrick Boucheron.
Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes l'une de nos honorables sociétaires ici, mais c'est comme autrice que je vous reçois aujourd'hui. Il y a 20 ans, vous publiez aux presses du réel Black is a Color, une histoire de l'art africain-américain contemporain. Et tout récemment, aux éditions B42, Réunir les bouts du monde, art, histoire, esclavage en mémoire. C'est très exactement de cela dont on va parler. Et pour vous aussi, j'imagine, c'est une émotion, mais différente, parce que ça fait quand même longtemps que vous travaillez sur ces sujets.
En effet, l'émotion qui est la mienne, c'est surtout de découvrir des œuvres que je ne connaissais pas grâce à l'exposition. Et aussi, on a écouté l'extrait de Glissant, l'importance de réunir toutes les différences.
Voilà. Et c'est très exactement, non seulement la portée, mais je dirais aussi la forme de votre livre. On va en parler, réunir les bouts du monde. Bah oui, commençons par... Vous venez de le dire, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Enfin, vous connaissez, mais voilà, nos auditrices et auditeurs, peut-être pas. On va commencer par le plus simple, le plus accessible. Donc, je l'ai dit, cette série de Romary Bearden, il y en a quelques-uns qui sont dans la deuxième partie de la première salle. Puis si on commençait par cette image-là, tiens, on va la regarder. Qu'est-ce qu'on voit, Eva, par exemple, ici? C'est le Duke Ellington.
Alors, c'est Duke Ellington et Billy Strayhorn qui ont été ensemble les auteurs de la bande-son d'un film, Paris Blues, sorti en 61. Et ce film, Romary Bearden, lorsqu'il a réalisé cette série de collages, c'est un film auquel il a souhaité répondre. Voilà. Répondre de manière critique, notamment, et précisément pour nous emmener vers un imaginaire de ce Paris des années 50, de ce Paris du jazz, de ce Paris peut-être de liberté, un peu différent et un peu plus critique que ce qui avait pu se jouer dans ce film qui a été, selon lui, édulcoré et passé, disons, au filtre d'Hollywood.
D'Hollywood, voilà, tout simplement. Exactement. Et donc là, on est bien dans le cœur de cette question. C'est-à-dire, oui, bien sûr, le jazz, évidemment, et même avant les années 50, mais Romary Bearden, Elva Zabunian, fait cette rétrospective, au fond, en 1981, revient sur ces années 50, précisément pour les défolkloriser, pour les arracher à ce chromo. Et pourtant, là, on voit un chromo. Hein, c'est-à-dire qu'on voit le Sacré-Cœur, on voit comme une sorte de all-inclusive, voilà, un édifice où il y a du Sacré-Cœur, de Notre-Dame, de une Tour Eiffel et la Joconde qui est pendue à la Tour Eiffel.
Alors tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que Romary Bearden, parlant de Paris dans les années 50, comparait la capitale française au Harlem des années 1920. Romary Bearden commence ses premiers collages dans les années 60 précisément, donc en 63 très spécifiquement, et le collage, c'est aussi sa marque de fabrique, c'est la façon dont il a toujours conçu une esthétique, et en mettant dans cette série en particulier le Paris avec de façon relativement stéréotypée, puisque tous les États-Uniens ou Américains ou tous les touristes à Paris vont au Sacré-Cœur et se déplacent dans Paris de façon émerveillée. Et surtout dans cette série, Bearden intègre des vraies photographies, notamment le noir et blanc là que l'on voit. Et puis il y a aussi des croquis. Et ça, c'est aussi assez inédit. C'est-à-dire que normalement, le bleu est très bleu. Donc on voit en fait que cette texture, je dirais, des années 80 est aussi... Alors Bearden meurt en 1988, donc c'est quand même assez... Bon, il a à peu près 70 ans à ce moment-là. Donc c'est aussi revenir vers un amour de la capitale. Il a passé quand même plusieurs mois à Paris à ce moment-là. Et on voit qu'il... Il introduit différentes strates, en fait, de sa propre mémoire, je dirais.
Oui, tenez, je vous en fais passer un autre de collage, Eva Barrois de Kevel. Là, justement, on voit l'aspect documentaire ce collage avec différentes matières, et notamment la matière photographique.
Tout à fait. Alors là, on a aussi précisément des planches qui rappellent directement le film, qui sont des photogrammes du film, et puis ces trois visages. Et alors, un critique qui nous passionne et qui a écrit dans le catalogue de l'exposition Paris Noir, qui est Robert Omelli, décrit les trois visages en disant ceci, qui me semble intéressant, qu'on est sur une sorte de Mount Rushmore, donc de vision comme ça, qui pourrait être un panthéon un peu national de trois figures du jazz, sauf qu'ici, et c'est pour ça que pour Bearden c'était important, on est sur un panthéon transnational.
Donc il y a Duke Ellington.
Voilà, vous avez Duke Ellington, George Auric, et une figure qui peut-être souffre d'une mauvaise identification, qui là est décrite comme André Isodier, mais peut-être qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, voilà.
Mais ce sont des gens qui écrivent sur le jazz.
Qui écrivent sur le jazz, exactement, des historiens du jazz, et puis bon, bien sûr Duke Ellington, et ce qu'explique Robert Omelli, c'est que dans ce panthéon-là transnational, précisément précisément, Romare Bearden voulait revenir encore une fois à cette idée que le jazz était l'endroit de quelque chose de moins justement stéréotypé, divisé que ce qu'une pensée peut-être états-unienne s'en était fait hein, comme idée dans ce Paris des années 50 et précisément sur des questions de genre, de sexe, de race, de sexualité, voilà, que le jazz était l'endroit qui avait permis pour lui, dans son expérience de ce Paris des années 50, des expériences plus complexes, plus cosmopolites et plus transnationales, encore une fois.
C'est ça.
Voilà, que ce qui restait peut-être de cet imaginaire du jazz quand il revient sur ce moment.
Matisse aussi écoutait du jazz, Elvan, évidemment. Et alors, en dehors de la question des influences, on voit bien que le collage, c'est au fond pour les artistes africains-américains, eh bien, la forme peut-être pas stéréotypée, mais disons la première, sinon obligée, du moins le passage, au fond, à l'art contemporain. C'est ce qu'on attend d'eux aussi, d'une certaine manière.
En effet, Romare Bearden avait commencé sa carrière d'artiste en tant que peintre. Il comprend très vite que tout en étant proche des artistes expressionnistes abstraits dans les années 50, en fait, son œuvre picturale n'est pas reconnue. Et très vite, le collage... Alors, il y a aussi un élément biographique important, c'est que Bearden étudie avec George Grosz, qui est l'un des fondateurs, en fait, justement, du collage, donc de cette génération d'artistes qui a fui l'Allemagne nazie et qui enseigne aux États-Unis.
Et donc Grosz, il sait la portée politique aussi collage.
Exactement, la portée politique du collage, anti-totalitaire, etc. Et c'est pensé pour ces artistes, disons, dada, le collage est une arme politique. Et bien sûr, Bearden comprend très rapidement que lui aussi, il va pouvoir s'approprier ce langage pour en faire une forme engagée.
Alors, on va continuer à progresser dans, en esprit dans cette exposition. Vous l'avez dit, Eva, il y a cette matrice au cœur même de l'exposition, mais qui est à la fois le tout monde et puis Paris. Eh bien, en 1952, cinq colonnes à la une allaient sur les traces de John Littleton pour donner à voir Harlem sur scène, c'est le titre de cette œuvre cinématographique qui est aussi exposée dans Paris Noir.
Vous venez souvent ici, monsieur Littleton?
Oui, assez souvent.
Pourquoi?
Parce que j'aime la musique de jazz et c'est ici où on trouve la musique de jazz très solide, bien.
Et combien de temps êtes-vous en France?
Eh bien, je suis en France, ici à Paris depuis 8 ans, et en France depuis une dizaine d'années.
Qu'est-ce que vous avez fait d'important depuis que vous êtes en France?
Important, eh bien, j'ai trois prix du conservatoire.
C'est loin du jazz.
Ah oui, assez.
Vous avez complètement abandonné l'opéra et l'opéra comique?
Abandonné, j'ai fait le tour de chant, n'est-ce pas? Le folk blues et le folk... songs and spiritual and tout ça.
Well, it's all almost done. Well, it's all almost done. Well, it's all almost done. And I ain't gonna see them pretty girls no more.
Quand vous êtes à Paris, qu'est-ce que vous faites? Vous vous promenez quelquefois?
Vous savez, j'ai très grand travail, n'est-ce pas? Quand je ne travaille pas, bien fait un tour, n'est-ce pas, de temps en temps pour relaxer.
Quand vous avez à travailler, quand vous avez à composer des chansons avec qui, où travaillez-vous?
Pour la musique, c'est au studio, ou bien le soir, ou chez moi, si c'est de parole, c'est au café.
Oui.
Eva Barrois de Kevel, c'est ce Paris noir qu'on peut voir au centre Pompidou. C'est une géographie. Et c'est une géographie qui, au départ, déroute les artistes africains-américains qui viennent après-guerre, alors dans le cadre du GI Bill, souvent, c'est-à-dire, au fond, dans la suite, c'est une après-guerre. Hein. Et vous racontez que, au fond, quand ils débarquent, ils cherchent le ghetto. C'est là que, d'une certaine manière, ils s'attendent à trouver une ville ségrégée. Et c'est pas exactement ça, Paris.
Oui, alors il est vrai qu'il y a plusieurs citations, extraits comme ça qui sont assez intéressants. D'une part sur effectivement l'effet de sinuosité de Paris, qui n'est pas une ville de bloc à l'américaine. Et beaucoup d'artistes ont écrit et décrit ce que cette sinuosité produisait. Cette question peut-être de sérendipité, de rencontre, de hasard qui devient importante dans le processus créatif et qui a d'ailleurs des liens avec la syncope du jazz, enfin cette question aussi de l'accident et qui est mentionnée par beaucoup d'artistes. La question d'ailleurs qu'on vient d'entendre du café, qui devient aussi un petit peu l'incarnation dans cette question aussi de l'espace relationnel, de l'espace de rencontre. On a d'ailleurs dans l'exposition plusieurs images qui convoquent, on a une photographie de deux artistes comme ça qui se rencontrent au café. C'était très important pour nous qu'on puisse sentir cette relation, cet espace du café. Et puis oui, effectivement, dans ce Paris de la rencontre, ce qui déroute, c'est aussi une ville, alors là aussi à ne pas idéaliser, mais avec un effet dans ces rencontres, de rencontres qui normalement n'auraient pas lieu dans un espace ségrégué. Voilà, tout à fait. Et à Paris, ces rencontres sont possibles. Cependant, les artistes ne sont pas dupes et assez vite voient bien que d'autres populations, notamment les populations algériennes, subissent des formes de ségrégation, etc. Donc, mais il est quand même très intéressant de sentir qu'il y a un premier effet qui est celui d'une liberté, d'une possibilité nouvelle de la rencontre qui est formulée par ces artistes.
Donc on est bien, Elvanza Bunyan, de toute façon dans ce contexte de l'après-guerre où dès 1950, eh bien Paris devient l'une des capitales. Hein. Il y en aura d'autres, il y a Tunis, il y aura Dakar, il y a Rabat, mais du panafricanisme. Donc c'est une histoire politique, c'est une histoire de déplacement, de circulation artistique, mais aussi d'exil.
Tout à fait. La question, par exemple, du ghetto ou de la similitude entre le ghetto et certains quartiers de Paris est posée aussi par James Baldwin, qui va souvent à la Goutte d'Or et reste dans les cafés, a des amis algériens et raconte. En fait, c'est aussi un moment où il y a une réalité politique qui est en effet celle des décolonisations sur le continent africain, enfin entre les années 50 et les années 60. Et puis Baldwin dans les années 60, ou même Angela Davis quand elle est à Paris autour de 63, dit qu'il y a vraiment des similitudes entre la condition noire et la condition algérienne par rapport aux discriminations subies par les populations. Et c'est vrai que le quartier latin, lui, est un lieu aussi de rencontre à la fois littéraire, musicale.
Alors il y a Pigalle aussi où ils sont.
Il y a Pigalle aussi parce qu'il y a un restaurant. Il y a un restaurant africain-américain en fait qui réunit beaucoup de monde à cette époque-là. J'avais essayé de le retrouver mais il n'existait plus quand j'avais commencé mes recherches. Et puis dans le quartier latin, il y a aussi Richard Wright qui habite. Et voilà, et puis il y a donc toutes ces personnes qui se rencontrent en effet dans ce Paris-là.
Dans le très beau catalogue Paris Noir, il y a un article de Frida Ecotto, Le cinéma noir en France, qui met en avant la figure d'Ousmane Sembène, cinéaste sénégalais formé à Moscou, qui retrace donc le parcours, un très beau film qui s'appelle La Noire 2, dont on va entendre un extrait, qui retrace le parcours d'une nourrice sénégalaise de Dakar jusqu'à Antibes, ascension, déclin d'une jeune femme, attiré par le mirage néocolonialiste.
Tu crois que la France est plus belle?
J'en sais rien, moi. J'ai jamais visité la France.
Ma patronne m'a demandé si je voulais y aller avec elle.
Pourquoi faire?
Lui garder les enfants. Il est en colère. Il va dire... C'est de l'aide domestique. Ma mère est d'accord et j'irai en France. En France, en France, en France, en France.
Et Et en 1966, justement, Ousmane Sembène organise une biennale du cinéma africain à Tunis. C'est toutes ces circulations artistiques que donne à voir votre exposition. Ça, c'est une belle découverte. J'avoue que je ne connaissais pas du tout Ousmane Sembène et il est présent dans l'exposition.
Oui, il est présent. Bah, c'est un immense réalisateur sénégalais. Moi, c'est un film qui m'a énormément émue quand je l'ai vu pour la première fois et qui est très important pour moi. Il est vrai que dans l'exposition, alors bien sûr ça s'appelle Paris Noir, mais effectivement on ne souhaitait pas que Paris soit se dise comme une sorte de centre du monde, hein. C'est vraiment pas le propos de l'exposition. Et il y a donc tout ce passage, et notamment cette salle, hein, qui s'appelle Paris-Dakar-Lagos, et qui se poursuit d'ailleurs Alger ensuite, hein, qui est une salle qui justement raconte comment ces grandes capitales, Dakar-Lagos, sont aussi des espaces culturels, vraiment des cœurs, des espaces d'élaboration. Et précisément dans ce moment où s'élabore une pensée d'après l'indépendance, dans ces processus de décolonisation, vraiment des espaces où vont s'élaborer effectivement des solutions plastiques, des solutions culturelles, des solutions institutionnelles. Et Sembène arrive dans ce moment-là. L'extrait de La Noire 2 est présenté en ce moment-là. C'est un film politique. C'est un film qui décrit aussi ce que peut être ce fantasme et ce regard et cette idée d'aller vers la France. Donc on l'a placé dans cette salle où on raconte plutôt des circulations d'artistes entre ces capitales et comment ces artistes se nourrissent de leurs expériences dans ces capitales africaines.
Évidemment, l'exposition Paris Noir est accompagnée de toute une série, comme souvent à Beaubourg, de manifestations culturelles, notamment une rétrospective Sarah Maldoror. Vous vouliez en parler, Elva Nozamilian.
Oui, je voulais en parler parce que Sarah Maldoror est d'une part une cinéaste très importante et fondamentale dans la lignée aussi d'un cinéma politique, comme ce que l'on vient de dire, et puis notamment sont présentés deux extraits de ces films dans l'exposition, et puis il y a la rétrospective qui se termine le 7 avril de ces films, et cette rétrospective ouvre avec un film qui s'appelle Monangambé de 68-69, où elle fait, on revient au jazz, où elle fait part, en fait, c'est l'histoire très tragique de la torture par l'armée portugaise d'un sympathisant de la résistance angolaise. Et à la fin du montage, Sarah Maldoror va écouter un concert du Art Ensemble of Chicago à Paris et les sollicite pour composer la bande son du oui. film. Ils acceptent dans une forme de solidarité précisément africain-américaine, panafricaine, politique. Et voilà. Et donc c'est Sarah Maldoror a aussi une manière de relier. On parlait de circulation. Elle-même a étudié à Moscou en fait, comme Sembène, le cinéma. Et elle a aussi donc un espace tricontinental puisque c'est un peu ce cinéma tricontinental et c'est position politique tricontinentale qu'il illustre de façon très, très puissante.
Il y a aussi évidemment exposé des artistes caribéens, haïtiens, haïtiennes comme Luce Turnier. Et là, on retrouve justement cette question du collage oui. et du rapport entre collage et documentation.
Oui, alors Luce Tunis, c'est une artiste qui nous a passionnés, d'une part parce que dans ces années 50, il y avait peu d'artistes femmes, pour différentes raisons structurelles sur lesquelles je pourrais revenir, mais c'est un sujet un peu vaste. Mais donc Luce Turnier, voilà, on a souhaité la mettre à l'honneur avec un ensemble de collages assez important. C'est une artiste intéressante pour de nombreuses raisons. D'une part parce que, donc effectivement, quand elle arrive à Paris, elle va avoir cette pratique de collage en tant qu'artiste haïtienne, qui est très libre, très personnelle, mais qui vient aussi répondre qui est une réaction à peut-être des attentes aussi, un art haïtien, disons, un folklore oui. artistique haïtien, et elle prend vraiment position par rapport à cet art-là, et elle va d'ailleurs faire partie d'un groupe qui va être nommé Les Sophistiqués. Elle est aussi une grande portraitiste, et c'est un travail de collage qui est fait avec de la récupération, hein, comme chez Burdon, où vous trouvez des tickets de métro, voilà, aussi toute une plastique comme ça de la ville. Elle va récupérer, elle, des chutes de papier liées à son travail dans une administration, et le soir, elle réalise ses collages, et elle décrira comme c'est effectivement un moment de grande liberté, et ce matériau qui est celui de son travail dans la ville, ses circuits dans la ville qui est pris dans ses transports, et ben permet de recomposer une image de la ville. Hein. Donc là aussi,
et une image aussi qui est à la fois tremblante et changeante.
Oui, une image tremblante, changeante de la
ville. Cabane de chantier, 1970, ça vous l'exposez, c'est magnifiquement présenté aussi dans le catalogue.
C'est une très belle œuvre et je crois que le public est subjugué par cette œuvre et on est très contente parce que c'est vraiment une artiste qui est étonnante et passionnante.
Donc là, on est toujours dans le rapport entre montage, improvisation, jazz, mais Elvan Zabunian, on s'éloigne d'une certaine manière de ce cliché du Paris des chanteurs et des musiciens de jazz.
Tout à fait. En fait, la question qui surgit de façon assez évidente, c'est aussi celle du social, d'une position sociale occupée par les artistes. C'est-à-dire que ces artistes se retrouvent à Paris reconduisant d'une certaine manière toute une approche du racisme souvent que ils et elles ont vécu dans les différents contextes au sein duquel ils et elles ont été formés ou ont dû travailler. Et c'est vrai que la cabane de chantier, oui, c'est quand même le lieu du travail ouvrier. C'est aussi la périphérie. Ouais. Enfin, c'est aussi un espace un petit peu de vulnérabilité ou de précarité.
Et Lustionnier est très précaire quand elle réalise cette série. Il y a un extrait vidéo, on l'entend parler de cette période de travail où elle décrit vraiment ces grandes conditions de précarité.
Mais, ils ont, tous ces artistes-là parlent beaucoup des conditions sociales et de pauvreté dans lesquelles ils et elles sont, où ils se nourrissent d'un croissant et d'un café. Et c'est le seul repas de la journée, parfois, en fait.
L'affiche que vous avez choisie, c'est un autoportrait magnifique, sublime, mais de quelqu'un qui est un videur, en fait, de boîte de jazz.
Oui, alors là aussi, c'est dire que ce jazz, cet univers du jazz, n'est pas que, là aussi, cette histoire romantique, c'est pour beaucoup un gagne-pain. C'est un lieu de travail. On est ouvreur, on a tous des petits boulots autour du jazz. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent et qui parcourt l'exposition, effectivement.
Vous écoutez France Culture, Allons-y voir, en compagnie de Eva Barrois de Kevel et Elvan Zabunian. Nous parlons de cette exposition Paris Noir. On entendait Paris Blues, justement, de Duke Ellington, 1961. On est au cœur du sujet. Et le sujet, souvent dans notre émission, il est relancé dès lors qu'on a la joie de recevoir une carte postale. La carte postale du philosophe Mathieu Pot-Bonneville, qui est directeur du département culture et création de quoi ? Emma, du Centre Pompidou, justement.
Vous allez écrire un livre.
Un livre ? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, c'est une photographie prise au vol.
À l'arrière-plan, sur le plateau de cette salle de spectacle, s'affiche le portrait de classe d'un collège britannique, les élèves sur trois rangs en polo crème, image d'archives projetée en fond de scène. Devant elle, assis, un guitariste se tient penché sur son instrument, baigné de ce genre de monochrome bleu que versent sur les musiciens les projecteurs de concert. Chose étrange, il est coiffé d'un genre de toque de feutre, mais un autre couvre-chef, un chapeau de prix, est posé sur l'ampli qui jouxte son épaule, côté jardin. Deux coiffes donc, et deux têtes aussi. Car le visage du guitariste, bien plus jeune, figure également sur la photo de classe qui le surplombe. Non en bleu, mais en noir. Et comme il est le seul noir de cette photo de collège, il n'est pas difficile à voir. Quant à moi, qui prends la photo, je suis assis au premier rang de la salle de spectacle. Cela fait des semaines que nous attendons ce moment. Au Centre Pompidou, en ce mois de juillet 2021, le service des spectacles vivants, emmené par la formidable Chloé Siganos, a convié un collectif d'artistes nigérians. Il y a le chorégraphe Kudu Sonikeku, le performeur Native Makari, son complice Simon Ruby, et il y a Kezia Jones. S'agissant de Kezia, nous sommes convenus qu'il aurait carte blanche. Bon, le mot ne va pas de soi, on a lu Frantz Fanon tout de même, mais allez donc trouver un autre mot que carte blanche pour dire la liberté d'un artiste sur un plateau. Ce que Kezia Jones va faire de cette liberté, ses amis n'en savent rien et s'en inquiètent un peu. Au soir du concert, la salle est comble, mais de concert, il n'y aura pas. Ce soir, Olufemi Sanyaolu est venu s'expliquer avec Kezia Jones. Olufemi Sanyaolu, c'est ce guitariste qui porte une toque, qui décide de raconter sa vie d'avant. D'avant le chapeau. D'avant d'adopter dans le métro parisien où il fut découvert ce prénom de Kezia et ce patronyme de Jones parce que peut-être Paris se montre plus accueillant aux peaux noires si elle porte des noms anglais. Olufemi raconte. Il raconte cette période entre 13 et 17 ans où il avait cessé de parler. Il raconte la silhouette immense de Fela dont la rencontre l'a changé à jamais. De temps en temps, il étire sur le manche de sa Fender les murmures d'une mélopée électrique puis s'arrête et se remet à parler. Il déplie la façon dont Kezia Jones fut à Olufemi Sanyaolu ce que Ziggy Stardust fut à David Jones. Vient un moment où il se lève, ôte sa toque, coiffe le chapeau, exécute une version impeccable de Rhythm is Love. Dans la salle, le soulagement est palpable. Mais une fois le morceau terminé, Olufemi pose le chapeau, explique que pour retrouver son nom, il doit quitter Kezia. Or, si Kezia et lui se séparent, il ne peut pas jouer non plus. C'est comme si Kezia avait obtenu par décision de justice la garde des chansons. Là-dessus, il quitte le plateau et ce soir, il ne reviendra pas. La moitié du public réclame le concert attendu, l'autre moitié, dont je suis, pleure à chaudes larmes. Sur mon carnet, à mon retour, je note « Finalement, ce n'était pas un concert, ce fut une conférence, étrange comme un saut dans le vide, sincère comme un faux pas, vrai comme une imprudence. » Et ce fut une performance, si par là on attend la mise en danger de soi dans l'événement qui consume le programme prévu. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux pour un artiste que de vouloir ôter le masque sans être sûr que la musique continuera à vous tenir au visage. Et puis, on ne demande pas à un coming out d'être techniquement irréprochable. Le 24 janvier 2025, Kezia Jones a sorti un album. Intitulé « Still Alive and Kicking », il réunit de magnifiques morceaux enregistrés au Cloud Africa Studio à Lagos. Je suis tellement heureux qu'Olufemi et lui aient décidé d'emménager ensemble.
You got to talk to someone someday. Cause when the words are gone, it's too late. You got to talk to someone someday. Cause when the words are gone, it's too late. Communication with me, but the antenna there. I am a function of thee. I'm speaking loud. Beautiful Emily, I need an explanation.
Parlons justement de lignes de couleur et de visibilité, Vanessa Bunion, parce que Romary Bearden, il avait la peau claire quand même. Si clair qu'il pouvait, il le disait lui-même, passer pour un blanc. Bon, c'est la question effectivement du passing qui est primordial pour les Africains américains. Et ce qui fait que, voilà, on a commencé par lui, mais au fond, c'est celui qui a été d'emblée le plus visible, au fond, dans les galeries, dans les musées américains.
En effet, il était l'un des premiers et seuls artistes africains-américains à avoir une célébrité aussi importante de son vivant. Mmh. Même s'il était aussi d'ailleurs considéré comme le Bruegel de Harlem.
Parce qu'il donnait à voir aussi toute la diversité.
Voilà, et puis c'est quelqu'un qui a très tôt en fait fait un travail inspiré par... où il s'inspirait, où il convoquait Homère, l'Odyssée, la mythologie grecque.
Vous en parlez dans Réunir les bouts du monde, justement, cette Black Odyssée qui est... au fond, une réflexion magnifique également sur le passage du milieu, sur l'esclavage.
Exactement. En fait, pour lui, convoquer l'Odyssée d'Homère, c'était une manière de créer des points de jonction entre le passage du milieu, la déportation des Africains et Africaines vers les Amériques. Et dans le même temps, ça correspondait aussi, d'un point de vue contextuel, avec la série de Racine, qui avait été de Alexei Lee, qui était présenté à la télévision. Et c'était aussi une grande inspiration. Cette série de Romary Bearden a été une inspiration pour le poète caribéen Derek Walcott, qui lui-même, en fait, avait écrit un long poème de 300 pages qui s'appelait Homéros, où il y avait une façon de relier la mer Égée et la mer des Caraïbes. Donc il y a aussi cette possibilité de quitter en fait le statut d'artiste noir américain ou africain américain pour rentrer dans une histoire beaucoup plus large et beaucoup plus grande à travers évidemment une histoire qui est celle d'un commerce triangulaire qui intègre les trois continents.
Eva Bauer de Kevel, c'est primordial, on l'a déjà dit dans
l'exposition. Oui, c'est primordial, on se réfère vraiment à cette dimension épique, ce moment océanique qui est au cœur de l'exposition. Je crois que c'est très important. C'est très important quand on veut décrire cette conscience noire, hein, qui se trame dans ce terme noir qui est la moitié du titre de l'exposition. Et puis sur effectivement cette inscription dans des histoires plus larges, hein, plus vastes, ça aussi c'est une des clés de lecture de l'exposition. Il y a une salle qui s'appelle Paris comme école notamment, qui est à interpréter de cette manière-là, hein, qui est vraiment une salle où les récits qu'on essaye de formuler, ce sont ceux-là, c'est des artistes qui se réinsère dans des histoires autres, enfin qui se déplace dans ces histoires, et c'est ce qu'on souhaitait vraiment raconter avec cette section de l'exposition.
En donnant à voir, il faut quand même le rappeler, plein d'artistes qu'on ne voit. Vous êtes l'une et l'autre spécialiste de l'art africain-américain du 20e et 21e siècle, mais c'est quand même pour beaucoup d'entre eux des découvertes en France.
Oui, alors on a des artistes qui ont eu déjà des expositions monographiques, qui ont une certaine reconnaissance, mais effectivement beaucoup de découvertes, beaucoup d'artistes moins connus, ce qui a été véritablement un défi au musée. D'une part un défi historiographique, parce que pouvoir exposer ses œuvres au musée, il faut faire un travail de recherche, pousser à un certain point, enfin il faut qu'on ait une traçabilité, une histoire de ses œuvres, des éléments, enfin, voilà, avec un niveau d'exigence qui est celui du Musée National d'Art Moderne. Et puis ensuite c'est la question effectivement de sourcer ses œuvres, de les avoir fait venir, qui n'a pas non plus été une chose simple. On a vraiment des géographies très, très larges dans cette exposition, et c'est aussi des œuvres qui ont nécessité des restaurations ou qui ont mis en branle des espaces de la conservation au musée assez denses là aussi en termes de travail, mais c'était essentiel.
Il y a un effet de révélation par le musée, toujours, inévitablement, Elvan Zabunian, mais voilà, vous rappelez aussi que derrière tout ça, il y a une historiographie qui est une historiographie longue. Déjà toute une bibliothèque.
Bien sûr, je pense que c'est souvent comme cela que ça se passe, je pense, une exposition doit avoir une visibilité au moment en lien avec une actualité, mais il me semble que les narrations en fait sont ancestrales ou en tout cas beaucoup plus lointaines et que il est très important aujourd'hui qu'une un projet, une manifestation comme celle de Paris Noir puisse garder des traces dans la mémoire des personnes qui l'auront vue pour que dans 20 ans on ne se dise pas tiens, on redécouvre des oui. artistes que l'on ne connaissait pas, puisque souvent il y a moi, en tant qu'historienne de l'art, je pars du principe aussi que ces artistes-là ont travaillé dans leur temps et que si jamais on ne les connaissait pas, c'est que les conservateurs de musées ou les critiques d'art ou les historiens de l'art n'ont pas fait suffisamment leur boulot aussi.
Mais c'est une histoire qui est déjà constituée sans doute en partie, mais de manière fragmentaire. Et d'ailleurs, lorsque vous composez, vous aussi, votre livre « Elvanosa Bunyan » qui vient de paraître sous le titre « Réunir les bouts du monde », vous réfléchissez à cette question même de la composition fragmentaire d'une histoire qui, par définition, fait récit de sa propre dispersion.
Exactement. Alors c'est pour ça que c'était intéressant que l'on commence avec le montage et le collage, puisque ma façon de faire de l'histoire de l'art s'est beaucoup inspirée de ma lecture des œuvres d'artistes qui m'ont intéressée. Et quand Romare Birdon ou d'autres en fait inscrivent cette question de la fragmentation par la forme même de l'esthétique qu'ils et elles produisent, je m'empare à mon tour de cette possibilité de la dispersion, bien sûr, qui est ce phénomène diasporique en fait qui est propre à la mise en esclavage des Africains et Africaines. Mais évidemment, c'est aussi comment, et c'est ce que dit aussi Glissant, bien sûr, que l'on a entendu au début de l'émission, comment est-ce que l'on peut reconstituer en fait des narrations multiples, plurielles, à partir de toute cette dispersion.
C'est aussi le cas d'un artiste comme Sam Middleton. Il y a l'écrivain Patrick Chamoiseau, qui est très présent aussi dans l'exposition où ce qu'il a inspiré. Parce que, encore une fois, tous ces récits s'enroulent, d'ailleurs y compris, je dirais, du point de vue de l'exposition elle-même, de sa géographie et de ses circulations, autour d'un vide, autour de quelque chose qui n'est inappropriable, qui est, encore une fois, le passage du milieu, c'est-à-dire l'esclavage, la mise en esclavage, la traite négrière, non pas qu'il n'y en ait pas d'histoire, non pas qu'il n'y en ait pas de mémoire, non pas qu'il n'y ait pas de puissance d'agir, c'est tout le contraire. Mais enfin, c'est quand même une dépossession massive qui est ce trou au-delà, autour duquel s'enroule tout le reste.
Oui, et c'est aussi la question des mécanismes d'oubli. C'est ce que vient également d'évoquer Elvan, sur cette, ne serait-ce que cette scansion des expositions, si on se met à un niveau un peu, de cette grande histoire. Effectivement, on réalise qu'il y a ce phénomène d'oubli qui est vraiment interrogé et que l'exposition interroge aussi. On a d'ailleurs beaucoup cherché, quand même les traces, la présence de ces artistes dans l'institution. Et on voit qu'effectivement, sont atteints assez régulièrement des sortes de points de rupture, où, bien que ces artistes aient des compagnonnages avec d'autres, ils ne vont pas être acquis par les institutions, etc. Donc c'est aussi cette histoire que l'exposition raconte qui est très importante. Sur la question de l'esclavage, vous avez aussi un moment dans l'exposition qui évoque le grand moment de 89, les célébrations du bicentenaire de la Révolution, qui est aussi un moment d'élaboration de ce que peut être dans l'espace public, dans des commémorations, cette mémoire de l'esclavage. Et là aussi, on voit que très vite, ce que vont être les suites, notamment par exemple la présence dans l'espace public, sont assez réduites à peau de chagrin. Donc là aussi, cette question de l'oubli, du retour de cet oubli, de la construction de cet oubli, elle est au cœur de l'exposition.
Est-ce qu'on a oublié aussi, en folklorisant un peu cette image chromo du Paris noir des jazzmen, c'est combien le jazz est une musique politique et une musique savante. Et ça, vous en parlez, vous l'écrivez dans votre livre « Réunir les bouts du monde », Elvanosa Bunyan, et en particulier autour de Sun Ra, des rapports entre Sun Ra et John Coltrane. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Tout à fait, c'est une découverte d'ailleurs que j'ai faite au moment des recherches que je menais. J'étais très intéressée par la figure de Sun Ra, donc qui est le créateur du free jazz. C'est un personnage très très intéressant, très riche, qui est né à Birmingham en 1914 et mort à Birmingham en 1993. Et donc toute sa vie a été mêlée à cette ville où il est né, qui était quand même une des villes où la ségrégation était une des plus fortes dans le contexte états-unien. Et puis il a rencontré Coltrane à Chicago, et Coltrane s'est beaucoup inspiré de Sun Ra, notamment de toute cette forme comme ça un peu propre à l'astro à l'astronomie, puisque Sun Ra en fait commence à composer donc ce free jazz qui est d'une certaine façon, j'évoquais le Art Ensemble of Chicago tout à l'heure, c'est aussi le free jazz se met en place à un moment où les nationalismes noirs, où l'afrocentrisme est célébré dans le contexte états-unien, mais aussi en France. Et Paris, où la France est un, sont des lieux où, culturellement où, qui accueillent avec beaucoup de joie, en fait, cette musique qui est une musique de liberté et émancipée. Et Sun Ra a aussi une importance parce que c'est quand même une figure qui amène l'afrofuturisme. Et l'afrofuturisme, c'est aussi une position politique pour penser le passé dans le futur avec un présent qui peut permettre de décoller comme dans une fusée, puisque Space is the Place est le titre du film qu'il réalise en 1974.
Oui, et là on écoute son album de 1967. Il faut dire aussi que Sun Ra était écrivain, poète,
tout à fait.
Et d'une certaine manière théoricien de sa propre création artistique.
Absolument.
Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Alors, Julia, on remonte le temps avec vous, hein, c'est ça?
Exactement. On remonte jusqu'au siècle charnière entre Moyen-Âge et époque moderne, le 15e et le 16e siècle, pour y découvrir comment les peintres y représentent un personnage noir nommé Balthazar. Vous savez?
Je crois. Balthazar, Gaspard, Melchior.
Voilà. Ceux qu'on appelle volontiers les rois mages et qui en peinture se présentent les mains pleines de cadeaux devant Marie et Jésus enfant pour signifier qu'ils reconnaissent dans cet enfant leur roi. L'évangile de Matthieu, le seul qui les mentionne, est en réalité très succinct les concernant. Ce sont des mages, Matthieu ne parle pas de roi, ils sont venus d'Orient. C'est la tradition chrétienne, aussi bien celle des écrits apocryphes que des images qui, de siècle en siècle, étoffe le récit qui les concerne. S'ils sont des rois venus des trois continents connus, Europe, Asie, Afrique, la valeur de la reconnaissance qu'ils accordent au Christ est décuplée. S'ils représentent les trois âges de la vie, jeunesse, maturité, vieillesse, ils synthétisent à eux trois le fait que l'humanité tout entière accourt auprès du nouveau-né de Bethléem. Si on les baptise, donc, Gaspard, Melchior et Balthazar, il sera encore plus aisé de se souvenir d'eux, de les identifier avec leur incroyable cortège luxueux et exotique.
Mais alors dans ce trio, Balthazar, qu'en est-il de lui plus précisément ?
Dans ce trio, cher Patrick, Balthazar représente l'Afrique. Et à partir du XVe siècle, les peintres européens le représentent à la peau noire. Là où jusque-là, les trois mages étaient représentés à la peau blanche. Ce tournant dans la représentation a enfin attiré l'attention des chercheurs il y a une quarantaine d'années, lorsque l'historien de l'art états-unien Paul Kaplan lui a consacré une étude intitulée « The Rise of the Black Magus in Western Art » en 1985, ouvrant un courant d'études études dynamiques. En 2014, en particulier, l'historien de l'art Victor Stoichita a consacré une série de conférences à, je cite, « l'image de l'autre, noir, juif, musulman et gitan, entre guillemets, dans la peinture occidentale du XVe au XVIIIe siècle, partant de la toute première adoration des mages où Balthazar est représenté à la peau noire, celle du peintre Hans Mulcher en 1437, aujourd'hui conservé à Berlin. Stoichita montre comment Balthazar, nonobstant son statut de roi, est maintenu dans une position marginale dans la composition, hors de la grotte où sont, au contraire, admis Gaspard et Melchior. Quelques décennies plus tard, au début des années 1470, Hans Memling fait progresser Balthazar dans l'image.
Je le vois, il a avancé d'un cran. Hein.
Exactement, il avance au sens propre comme au figuré. Et Memling lui fait passer le seuil de la crèche où se déroule la scène. La série d'images que Stoichita constitue et commente nous plonge dans ce qu'il appelle l'iconosphère de la différence dans une Europe en quête de sa propre identité. Et plus précisément encore, l'iconosphère de l'altérité noire au moment de sa formation même, au moment de l'irruption du noir dans l'art sacré. L'historien de l'art explicite les stratégies de marginalisation, séparation et enfin intégration qui dominent dans la peinture. Il nous fait toucher de l'œil, si on peut dire ainsi, la façon dont l'autre s'intègre dans un système qui, au premier abord, ne l'intègre pas facilement. Étape capitale du raisonnement que Stoichita pose en convoquant Deleuze, il s'agit de l'autre qui fait fonctionner le système, qui est là pour le faire fonctionner car c'est l'étranger intérieur et non pas le plus extérieur qui préoccupe. En un mot, le roi noir Balthazar dans l'adoration des mages figure le questionnement du relativement proche.
Et donc la représentation d'un Balthazar noir perdure longtemps à la Renaissance et qu'est-ce que les peintres à ce moment-là font dire à cette figure ?
À observer de près comment continue d'évoluer la place de l'élégant Balthazar dans l'adoration des mages, volontiers vêtu de blanc et les mains chargées de présents raffinés, cher Patrick, on découvre que les peintres investissent sa figure d'une valeur particulière. Jérôme Bosch, par exemple, dans son adoration de 1494 au Prado, place sa grande signature au pied de Balthazar. Et Jan Gossert, dans son tableau de 1515 à Londres, brode directement son nom sur le couvre-chef du roi, apposant ainsi sa signature sur le front même de Balthazar. La situation du roi noir dans l'image est pleine d'ambivalence. Balthazar demeure une exception dans ses images, même lorsqu'il est valorisé parce qu'il est riche et élégant, il reste profondément seul. Au mieux, il est accompagné par un serviteur noir, mais tout le restant des personnages demeure blanc. Malgré cette solitude, Balthazar est porteur d'une charge positive, bien particulière, comme l'a analysé Daniel Arras dans On n'y voit rien, au sujet de l'adoration que Bruegel l'Ancien peint en 1564. Dans cette image, où personne n'y voit clair, surtout pas le vieux roi mage qui scrute l'enfant de trop près, Balthazar, au contraire, nous dit Arras, est le relais de notre regard dans le tableau. Parce que digne et souverain, là où les autres personnages sont représentés avec des attitudes ridicules, il pose un regard calme sur l'enfant qui est le regard de la foi. Plus d'un siècle après le début de sa représentation comme personnage à la peau noire, 1430-1560, Bruegel représente un personnage qui frappe par la noblesse de son attitude. Il nous confronte à l'intériorité de Balthazar, à son épaisseur de sujet conscient. Pour le dire avec les mots que Léopold Sédar Senghor adresse à l'artiste colombien Heriberto Cogollo en 1975, dans une lettre actuellement présentée au sein de l'exposition Paris Noir au Centre Georges Pompidou, l'art est l'expression d'un dialogue, d'une part entre l'homme et la nature, d'autre part entre l'homme et les autres hommes, mais encore entre l'homme et soi-même.
Mais ça serait pas une habile transition, ça, ou je ne m'y connais pas? Bah, merci, alors, merci, Julia Pouma, vous faites tout le travail. Bah, tenez, je vous donne, Elvan Zabunian, justement, ce tableau de Bruegel. On voit bien, effectivement, qu'on n'y voit rien, que tout le monde est bigleux, que chacun a, sauf, effectivement, ce beau personnage noir. Peut-être qu'on comprend mieux pourquoi Romary Bearden était appelé le Bruegel de Harlem,
ouais,
finalement.
Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, en même temps, il n'a pas du tout l'air de regarder l'enfant Jésus. Il regarde hors champ, ce Balthazar.
Bah, c'est le regard de la foi. Ouais. Et justement, Eva, c'est intéressant. Je vous ai vu acquiescer quand Julia parlait de Deleuze. C'est l'étranger intérieur et non pas le plus extérieur qui préoccupe, d'une certaine manière, toute la question de l'invisibilité est là.
Oui, et c'était très intéressant que Julia termine sur Kogoyo, qui est un artiste qui s'est intéressé toute sa vie à une figure, une sorte de sorcier qui est le Nohor, qui a la capacité à voir à travers, et donc à voir à l'intérieur et à voir le squelette hein, jusqu'aux tripes, mais qui est une métaphore de cette capacité à voir ce qui serait l'intérieur, et justement au-delà, d'une certaine manière, de la couleur, pas d'une façon apolitique, mais pour dire que la question est ailleurs, et donc je pense qu'il y avait là un très bel écho.
D'ailleurs, l'histoire de Julia Puma, c'est pas seulement l'histoire, on le saisit bien aujourd'hui, des Noirs en peinture au XVe siècle. C'est que là encore, il y avait une présence noire dans les villes européennes, ne serait-ce que par l'esclavage domestique que très longtemps on n'a pas voulu voir, et que l'art, d'une certaine manière, nous permet aujourd'hui de regarder, en fait.
Oui.
D'ouvrir les yeux sur cette réalité sociale.
En fait, moi j'ai abordé la question par l'adoration des mages, mais effectivement, ils sont présents dans des cours, je pense à Ferrare par exemple, chez les Estes, et on va les retrouver dans des portraits collectifs où il y a à la fois ceux qui tiennent la cour et ceux qui les servent. Et ce qui est intéressant, c'est finalement enfin de faire attention, de concentrer le regard sur toutes les figures dans l'image. Et c'est, je crois, le regard des historiens de l'art qui est enfin beaucoup plus pluraliste quoi, et beaucoup plus inclusif, qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire une écriture d'analyse qui inclut toutes ces figures.
Eva Barois-Lekeven.
Oui, j'ai un petit exemple à ce sujet parce que je l'ai beaucoup cité récemment et ça étonne pendant les visites. On s'arrête devant un tableau d'un artiste qui s'appelle Iban Diaye et je raconte quand je fais les visites que Iban Diaye était fasciné par Juan de Parera. Juan de Parera qui était l'assistant, le préparateur de couleurs de Velázquez et qui était un jeune esclave qui a été légué à Velázquez par sa tante. En même temps qu'elle lui a légué ses biens, son mobilier, elle lui a légué un jeune esclave. Et Juan de Parera avait aussi une pratique d'artiste, donc on n'a pas les œuvres, hein, voilà, mais on sait qu'il avait sa propre pratique. Et Iban Diaye s'est fasciné pour ce personnage. On a fait un portrait, enfin c'est représenté, en fait, on a fait une sorte d'autoportrait de lui en Juan de Parera. On peut voir ça au Prado. Et là, on a plusieurs œuvres hein, d'Iban Diaye dans toute l'exposition. Et c'était vraiment à la fois dans cette question de se replacer dans cette grande histoire. C'en est une occurrence, mais c'est aussi effectivement cette question d'un esclavage, on va dire. Proche, enfin voilà, et d'une relation à cette histoire de l'esclavage et à ces figures et à ces questions de représentation de figures noires, vraiment qui pour Iba est une obsession dans toute sa peinture et c'est des tableaux très très frappants pour ça.
Et on revient peut-être à Glissant, Elvan Zabunyan, parce que ce que vous faites dans Réunir les bouts du monde, c'est pas seulement de parler des mondes noirs, c'est de parler du tout monde, c'est-à-dire tout le monde, le monde de tous, c'est-à-dire une nouvelle manière de rendre commun un monde qui est le monde divers, sans doute dispersé, mais partageable.
Par la relation que ce concept philosophique que Glissant propose. Et en effet, Robert Somili, dans le cadre du colloque Paris Noir, donc parlant de Byrdon, mais pas que, évoquait la possibilité d'imaginer la visite de l'exposition en écoutant une musique qui relierait l'ensemble des artistes présents et présentes dans l'exposition.
Et bien celle-là, par exemple. Quelque chose. Eh bien, c'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Elvan Zabunian, Eva Barouat-Kevel et Julia Pouma. Les références de vos livres sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet et Anouk Minaudier, à la prise de son Jean-Guilain Meige et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous. Je sens en moi.